Merci pour cette seconde contribution. Nous allons donc passer la parole à la salle.
Merci, volontiers. Wes Fabler, directeur du CGPI. Je faisais la remarque tout à l'heure, les quatre dilemmes que M. Tissel a évoqués sont exactement ceux qu'on rencontre quand on dirige un organisme ou une entreprise. Et du coup, je m'interroge sur l'effet éventuellement positif des réflexions sur la modification des environnements de travail, des entreprises DRD, tout ça, sur le travail social dans une perspective d'insertion sociale et professionnelle. Je ne sais pas si ma question est claire.
Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais donc vous faites un parallèle entre le positionnement des professionnels dans l'institution et le positionnement des directions des institutions elles-mêmes. Est-ce que j'ai bien saisi ça? Probablement que, enfin, vous êtes sans doute mieux placé que moi pour le dire. On va peut-être poser la question aussi aux spécialistes de l'accompagnement, si vous êtes des accompagnants. Oui, il y a quelque chose d'assez fondamental, non pas parce que je les ai mis en évidence. Il y a probablement d'autres dilemmes, d'autres tensions, mais je pense que quand on est dans une institution, dans un groupe, on a eu une série de travaux de sociologues qui montrent pourquoi et comment, à l'intérieur d'un groupe, vous avez toujours une marge de manœuvre, c'est des gens comme Crozier, Friedel, etc. Vous avez toujours une marge de manœuvre qui est conditionnée, mais qui existe, qui est réelle. Et dans ce sens-là, le parallèle que vous tirez, probablement juste, je ne l'ai pas fait, parce que mon positionnement, c'était plutôt de réfléchir aux professionnels en eux-mêmes, même si je pense que les professionnels peuvent être aussi appelés à prendre d'autres positions que leur métier, donc de prendre des positions de dirigeant. Dans ce sens-là, le dilemme est le même, ou les dilemmes restent les mêmes. Ceci dit, les dilemmes sont peut-être un peu, sont différenciés, me semble-t-il, pour un professionnel par rapport à une direction, dans la mesure où vous avez véritablement des gens qui sont en face de vous et qui vous mettent sous pression. Alors c'est vrai avec des employés, mais quand vous avez une personne qui vient plaider, qui vient montrer, qui montre l'évidence du problème qu'elle rencontre, vous êtes autrement touché que lorsque c'est un professionnel qui vous rapporte quelque chose. Dans ce sens-là, je pense qu'il y a des tensions un peu différentes, enfin, il y a un degré de tension un peu différent, même si ces tensions sont probablement parallèles. Mais il y a aussi des employeurs ici qui pourraient confirmer ou affirmer ce que je dis là.
Par rapport à l'historique que tu as fait sur les politiques sociales et ce retour, est-ce que tu ne penses pas qu'on peut aussi dire que la mise en place de l'État social, c'était l'utopie? C'est-à-dire, pour reprendre le terme que tu as utilisé pour le revenu de base.
Est-ce que tout le monde a entendu?
Non,
c'est bon.
Oui, c'est une question difficile, parce que j'étais, même si je suis un peu avancé en âge, j'étais pas le 19e. Probablement qu'il y a une utopie et il y a eu au 19e l'évidence de certains problèmes. Le fait, par exemple, d'avoir des masses de personnes désespérées, des masses de personnes miséreuses. On parle d'épidémie de pauvreté, on parle de paupérisme, c'est ça, c'est-à-dire c'est quand même une forme de maladie collective qu'on a, et donc les populations qui vont être mises au bénéfice, auxquelles on pense au moment où on met ces questions d'état social en place, c'est surtout déjà à partir du 19e qu'on commence à poser ces questions, enfin la moitié du 19e, il y a effectivement quelque chose d'utopique. Il y a aussi quelque chose de politique, puisque les premiers qui ont réfléchi à ça, ils s'étaient dit, mais dans le fond, si on laisse aller les choses, les forces sociales, les mouvements, on ne parlait pas de mouvements sociaux à l'époque, mais les mouvements révolutionnaires pourrait tout à coup renverser le pouvoir. Et donc c'est bien une des logiques qu'on voit, que j'essaie de mettre en évidence, c'est cette logique d'essayer de récupérer d'instrumentaliser, en tout cas de donner une place à, qui reste quand même une des préoccupations que nous avons aujourd'hui. Dans ce sens-là, le revenu de base est probablement, je crois que c'est ça que j'essaie de montrer, je ne sais pas si j'ai réussi à le faire, mais c'est un retour à cette logique-là où on appelle à la solidarité sans discussion. Une solidarité certes minimale, dont on peut discuter du montant, de la manière de faire, mais une solidarité sans discussion. Mais ça passe par des éléments que vous avez évoqués en partie, enfin en tout cas sous-entendu, c'est la reconnaissance de la difficulté qu'on a tout simplement à trouver un emploi. Quand dans le texte que vous avez rédigé collectivement ou tout seul, je ne sais pas, c'est bien fait le texte.
Merci. Je suis l'auteur.
Oui, d'autant plus. Alors. Dans ce texte-là, qu'est-ce qu'on dit ? Ben, il y a la répartition du travail, elle est, c'est pas écrit comme ça, mais elle est inégale. Elle est inégale. C'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même chance d'accéder à un emploi. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on regarde les catégories de gens qui sont sans emploi, qui sont au chômage ou qui sont demandeurs d'emploi, tout simplement ceux qui ont quitté l'espoir d'avoir un emploi, qui sont à l'assurance invalidité. Ces catégories-là, on arrive à déterminer. C'est les gens sans, comme on disait, hein, c'est les gens exclus qui sont sans. Ceci dit, ces gens, c'est des gens qui peuvent parfaitement. D'abord, ils fonctionnent avec nous. Je reviendrai juste sur une digression, pour que vous me la rappelez. C'est des gens qui sont sans, mais qui ont leur place parmi nous. Le problème, lorsqu'on utilise le terme d'exclusion, c'est le Kertz pourra le redire demain probablement, c'est écrit quand même un article important là-dessus, tout un ouvrage. Les gens qui sont exclus de quoi ? Ils sont exclus de quelque chose dans lequel ils participent. Donc ils sont exclus de quelque chose auquel tout le monde participe. Et c'est parce qu'on ne reconnaît pas cette participation, ce besoin de participation générale, qu'on a des problèmes à comprendre tout simplement ce que veut dire exclusion. Donc, être exclu parce qu'on est au bénéfice d'une assurance sociale me pose vraiment un problème. Et c'est ça que j'essaie auquel j'essaie de réfléchir aujourd'hui. C'est comment faire en sorte que ces personnes soient reconnues dans, non pas leur exclusion, mais tout simplement leur participation. Ils sont là. Alors, je reviens sur ma digression. J'ai fait ces dernières années une série de travaux sur les fins de carrière. Fins de carrière professionnelle, et évidemment, aujourd'hui, bah, vous l'avez vu, on a des jeunes qui s'agitent chez nous en particulier, qui proposent des changements, des agences sociales en particulier aussi. On essaye de réfléchir ces fins de carrière en se disant mais que deviennent les gens au plan économique ? Et on sait aujourd'hui, ce qu'on a montré il y a quelques années déjà par un certain nombre de recherches, que la fin de carrière ne se passait pas si bien. C'est-à-dire que les gens qui sont au bénéfice de l'assurance vieillesse, qui sont à la retraite, ces gens qui autrefois avaient en effet des perspectives matérielles relativement intéressantes, aujourd'hui ce groupe de personnes est de moins en moins important. C'est-à-dire qu'on entre à la retraite et on entre en même temps à l'aide sociale. C'est quand même paradoxal. Donc ça veut dire que notre système ne fonctionne plus. Alors la question c'est, est-ce que ces gens sont exclus ? Et probablement qu'on a à s'interroger là, sur ce que ça signifie que d'entrer en retraite lorsque pratiquement 20% ou un cinquième de sa vie va être passé à la retraite. Donc ces gens nous sont parfaitement utiles. C'est des gens qui doivent vivre, qui vivent avec nous. C'est à ça qu'on doit réfléchir. Tout comme les gens qu'on n'arrive pas à intégrer dans le marché du travail alors qu'ils ont l'obligation contractuelle de travailler. Hein, c'est ces gens qui sont entre 20 et aujourd'hui 65 ans. Donc on a le même, à mon avis, le même problème. C'est qu'on n'arrive pas à intégrer ce groupe de personnes. Et dans ce sens-là, la question de l'utopie, j'espère qu'elle n'en soit pas le revenu de base, c'est cette solidarité qu'on doit retrouver, c'est-à-dire une forme de non-conditionnalité de la participation. Alors, Il y a une contre-prestation, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, une contre-prestation dans le sens où on doit amener les gens à tout simplement se valoriser elles-mêmes en leur disant « mais moi, ce que je suis capable d'amener, c'est peut-être pas aujourd'hui valable sur le marché du travail, mais je suis capable de faire des choses. Et j'ai envie de faire certaines choses. » Redonner ce sens, retrouver le sens, mais qui est plus forcément lié au marché de l'emploi, parce que le marché de l'emploi a un fonctionnement qui est excluant. On ne retrouve que certains attributs, et il y a des personnes qui n'arrivent plus à faire valoir ces attributs. Dans ce sens-là, je pense, j'espère surtout que le revenu de base, j'en fais pas une obsession, hein, on peut trouver beaucoup de choses. Mais l'idée, c'est de revivifier cette solidarité sans condition, c'est-à-dire sans doute. Parce que quand on parle d'abus et de choses de ce type, de l'aide sociale, je rappelle que la Suisse a fait fort, pour ceux qui ne sont pas de Suisse, puisqu'on a aujourd'hui validé dans la loi la possibilité, l'obligation pour les autorités de contrôler les gens qui sont au bénéfice de prestations sociales. C'est un contrôle qui est aujourd'hui bien calibré, mais on va engager des gens pour faire du contrôle. Ça coûte très cher. Dans certaines assurances, contrôle coûte plus cher des prestations.
Merci. Une question qui sera posée par Fabienne Lefer, qui nous fait le plaisir d'être là, venant de Belgique.
Oui, bonjour. Moi, j'ai une question à vous poser par rapport, évidemment, à un regard un peu belge sur cette question. Donc, d'une part, en Belgique, on ne parle plus d'État-providence, on parle d'État social actif, et ça depuis déjà, je pense que ça a dû arriver, à mon avis, dans les années 2000, parce que ça a déjà un paquet d'années. Donc, ça, c'est. Voilà, donc je voulais voir avec vous si on parle aussi d'État social actif chez vous. J'ai l'impression que la France va un petit peu aussi quitter l'État-providence avec l'État social actif, notamment avec les mesures de M. Macron. Donc ça, c'était ma première question. Et la deuxième question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous ne pensez pas que c'est toute la société qui est excluante ? Dans ma vie professionnelle passée, donc, j'ai été questionnée sur des mots. Notamment le mot insertion, le mot exclusion, et je me suis dit, après tout, au lieu de définir moi-même ou d'écouter ce que mon institution en dit ou ce que les politiques sociales en disent, j'ai interrogé en fait les bénéficiaires du revenu d'intégration en CPS pour leur demander, vous, c'est quoi en fait? Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que ça commençait très tôt, et notamment, ça commence à l'école. Ça commence à l'école parce qu'en fait, on ne fait plus de choix par rapport à ce qu'on souhaiterait faire. Mais ce sont des choix par l'exclusion, puisque ce sont des choix par le fait d'avoir raté quelque chose, avec en plus évidemment une dévalorisation des métiers manuels qui s'est produite, et avec la perte d'emploi, je dirais non qualifiant, ce qui a été évidemment dramatique pour les populations, je dirais avec une faiblesse au niveau de la formation. Donc la question que je pose, est-ce que vous ne pensez pas que c'est toute la société qui est excluante? Et ce qui me faisait dire ça, c'est le fait que vous dites, finalement, les personnes âgées qui sont exclues, je dirais, il y a des migrants qui sont exclus, il y a plein d'exclusions.
Alors, je répondrai peut-être à la première question d'abord, et je laisserai mon collègue répond aussi en partie la seconde. Alors la première, parce que vous m'interrogez en tant que représentant de cette entité qu'est la Suisse, le mot État-providence n'a jamais été utilisé ici de façon générale. Je l'ai utilisé pour qu'on ait une convergence de compréhension. Le mot providence, c'est vraiment pas quelque chose que l'on partage en Suisse. On est dans quelque chose, quand on parle d'État, c'est un État très sélectif. Il n'y a jamais. Bien sûr, il y a une dimension sociale qui existe comme partout ailleurs, mais nous avons un processus de contrôle, je l'ai dit, mais aussi un processus qui est extrêmement long. La Suisse est en retard sur pratiquement tous les dossiers sociaux. Elle était en avance jusqu'au début du XXe siècle, et à partir de là, on le voit, il lui faut pratiquement un quart de siècle pour mettre en route une décision populaire. Si vous regardez Ben, nous avons une chose assez intéressante. Nous discutons aujourd'hui un peu plus des politiques familiales. Alors, on vient d'aujourd'hui, je ne suis plus tout à fait sûr de l'actualité du dossier, mais on vient aujourd'hui d'accepter un congé pas parental, paternité, de 2 semaines. Je crois qu'on l'a accepté, il ne me semble pas qu'il y ait eu de référendum qui ait été lancé. Pas encore. Ne soyez pas si. Donc, on est très en retard sur tous ces dossiers. On a besoin d'avoir la preuve que les choses soient faites. C'est pour ça qu'on n'a pas l'idée de parler d'État de providence. C'est quand même d'abord des moments de confrontation sociale et politique qui ont fait advenir des choses. Alors, le système suisse est très curieux parce qu'il y a des choses remarquables au niveau en particulier de l'universalité, de la redistribution. On peut donner l'exemple qu'il n'y a pratiquement pas d'équivalent en Europe, c'est l'assurance vieillesse et survivants. Sauf qu'elle est une partie très restreinte de la sécurité vieillesse. La grande partie est une partie purement obligataire, mais qui est individualisée. Donc nous n'avons pas d'État-providence en Suisse. Alors, État social, moi je m'arrêterai là. Actif, ça me pose problème, parce que précisément, on est. Je voudrais pas utiliser ça, parce qu'il y a toute une connotation que j'ai essayé de montrer et qui me paraît assez périlleuse sur le fond.
Sur la question de la France, il est évident que la France est dans un état social actif depuis sans doute 20 ans. Vous parliez de 2000, oui, c'est à peu près autour de ces eaux-là qu'on peut dater la transformation, disons, au niveau des politiques d'emploi. Un des derniers avatars, c'est sans doute de réduire la durée de financement des chômeurs. Ces derniers jours, le contexte législatif est en train de travailler cette question-là et de s'emparer de ça et de considérer aujourd'hui que aussi pour tout projet professionnel, il faut passer par un conseiller emploi. Et que ce conseiller emploi répond à une définition du travail social. Et en même temps, donc on a eu, il y a 2 ans, je crois, une redéfinition de ce que c'est que le travail social et est inclus dans ces définitions et de conseiller emploi, comme passage obligé maintenant pour la redéfinition des projets professionnels. La notion d'être actif ou d'aller activement vers l'emploi. Donc oui, en France, le contexte de la présidence macronienne l'amplifie, on est dans un état social actif depuis... Alors moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que vous cherchiez l'exclusion non pas du côté des textes qui la définissent en amont et du côté des politiques publiques, mais qui la définissent en aval du côté des bénéficiaires et leur demander qu'est-ce que c'est que l'exclusion pour eux, travailler à partir de ça. Je crois que c'est une des manières de faire, de dénouer ces représentations, d'une construction de l'exclusion au fur et à mesure de la trajectoire, disons, scolaire et puis professionnelle. Du citoyen et de travailler à défaire ces sentiments d'exclusion ou à les renommer différemment pour être en mesure de les changer, de changer quelque chose au sentiment d'être exclu.
Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, j'anime des ateliers comme vous les avez écrits, en fait. Enfin, vous en parlez tout en mieux que moi, parce que moi, je suis dans l'action. Mais en fait, avec des personnes qui sont en revenu d'intégration, et en fait, j'allais vraiment à contre-courant, j'irais de ce que faisait le forum chez nous, c'est-à-dire de partir vraiment de ce que vous avez expliqué, c'est quoi pour eux le travail, quelles sont les expériences négatives qu'ils ont eues, vers quoi est-ce qu'ils auraient envie d'aller. Et ce sont des modules qui ne sont pas si longs que ça. Hein. C'est un module qui s'étale sur 3-4 mois avec, je dirais, léger pour eux. C'est-à-dire qu'on ne veut pas non plus les placer dans une contrainte dès le départ. C'est vraiment des modules où ils s'impliquent deux demi-jours par semaine sur cet étalement, avec du développement du pouvoir d'agir, parce que je suis formée au développement du pouvoir d'agir et formatrice dans ce domaine. Je suis aussi formée à la sociologie clinique, donc j'utilise aussi le récit clinique. Et là, j'insiste évidemment sur le récit professionnel, mais évidemment, ça fait sortir aussi parfois des secrets de famille, etc., par des sortes, tout ça. Et donc, voilà, mais c'est hyper, hyper intéressant, et ça fait en sorte, en tout cas, que les gens en sortent transformés, comme vous avez dit, et pour moi, une formation ou un module de remobilisation, ça doit, ce n'est pas une imposition, hein, je ne dis pas dans ce sens-là, mais aboutir en tout cas vers une transformation de la personne, au moins ses représentations d'elle-même, une prise de confiance et plus d'estime d'elle-même.
Je souscris complètement à votre démarche et je pense que c'est une des bonnes pratiques à développer. Le problème est celui du financement, du temps nécessaire d'accompagnement. Et du côté de la normalisation, eh bien, on a des dispositifs forcément plus courts. Du côté de l'ouverture de sens et du travail sur... les trajectoires, les identités professionnelles, le rapport au travail, etc., ça demande du temps. Ça demande du temps d'écoute et ça demande du temps de maturation. Et c'est le problème du financement, du coup, qui est en jeu. Comment on peut avoir des dispositifs plus ouverts dans des financements qui sont de plus en plus restrictifs et qui orientent. Donc, je n'ai pas parlé suffisamment des évolutions contextuelles de ces pratiques, mais dans ces évolutions contextuelles, évidemment, il y a la pression du chiffre et la pression du temps. Et conseiller emploi, on n'est pas sur des temps très très longs, ce qui du coup fait du conseiller emploi un acteur prescriptif de la bonne solution pour le bénéficiaire, la bonne solution de repositionnement, et pas un acteur qui écoute les projets venant du bénéficiaire.
En Belgique, on a utilisé en fait les subsides à la participation sociale, et donc on se situe un petit peu à la marge, on n'est pas dans le système emploi.
Ah, oui, alors Poussel, le monsieur Poussel, pardon, je ne crois pas de familiarité.
Pas encore. Pas encore. Pour la parole.
Pendant que le micro se prête. Juste deux choses, hein, sur l'exclusion, vous avez parfaitement raison. Hein, nous sommes une société qui, dans beaucoup de ses mécanismes, exclut. L'école est un excellent exemple. On appelle ça de la compétition, c'est beaucoup plus joli quand même à l'oreille. Mise en compétition des élèves, mise en compétition du tout. Et aujourd'hui, on parle positivement de l'exclusion, on parle de compétition. Je provoque un tout petit peu, mais c'est bien la logique. Hein. Dans le fond, on est quand même d'abord soucieux de ce que chacun est capable, nos enfants, nos proches, etc., d'être mieux positionnés dans la société. Et dans ce sens-là, on est forcément à coup exclusif. Dernière chose, nous, malheureusement, Suisses, sommes aussi dans un état social actif. La propension à demander aux gens à être actifs, elle existe dans toutes les mesures aujourd'hui d'assurance sociale. Hein, elle a contaminé l'ensemble. Et là, on n'est pas exclu.
Merci. Une question de Delphine Le Moulier.
Bonjour, je suis conseillère technique en travail social au département d'AGEBO. Donc en France, ce sont les départements qui sont chargés de la mise en œuvre de l'action sociale et c'est donc le service où je travaille. Je voulais juste revenir sur la comparaison que vous venez de faire, pour qu'on puisse éventuellement la mettre en échange ou en faire peut-être un compris. Quand vous parliez de la définition du travail social et la définition en termes d'activation qui est en train de mettre en œuvre dans la réforme du chômage qui est en œuvre actuellement en France, parce qu'il m'a semblé comprendre, mais en tout cas c'était une grande évaluation, qu'on n'est pas sur les mêmes assises conceptuelles et ça a quand même un fort impact dans les représentations. La définition du travail social qui a été définie par le Haut Conseil du travail social en 2017 parle du développement du pouvoir d'agir, parle du besoin des personnes de travailler le projet à partir de ce qui est important pour eux, et va plutôt à mon sens dans ce que vous évoquez dans votre première intervention, qui est de s'émanciper de la contrainte justement et du retour dans l'activation, et bien de partir sur un accompagnement qui soit à partir de ce que la personne, de la demande de la personne, alors que l'art des formateurs rentre vraiment dans sa définition pour ce qui est pour l'emploi, dans une politique d'activation et de rendre ce qui est donné, avec un passage quand même qui me semble assez historique du bon point de vue, qui est qu'on était juste là par rapport aux indemnités chômage en France, dans un système de politique assurantielle, et on vient passer avec cette réforme sur le niveau dans une politique assistentielle. Voilà, donc si on peut revenir juste sur les fondements conceptuels, parce que je suis obligée de comparer, je n'ai pas bien compris. Alors, la différence me semble énorme.
Oui. Écoutez, oui, vous êtes plus au clair que moi sur le libellé exact de ces réformes. Ce qui me semblait, en regardant la définition du travail social qui vient d'être en 2017, vous avez dit, hein, c'est ça. Je regardais le texte qui est paru, qui est un tout petit texte, hein, ça prend peut-être une dizaine de lignes. J'ai vu davantage... mais peut-être je l'ai lu trop rapidement, hein, j'ai pas vu véritablement le développement du pouvoir d'agir. Maintenant, il est peut-être entendu comme ça par les professionnels. Moi, j'ai vu plutôt l'inscription de l'acteur dans une démarche de prise en charge de son propre projet, dans une démarche plutôt active de définition de lui-même, qui n'est pas tellement du côté de l'interrogation, du travail sur soi, de la définition du désir professionnel, des objectifs identitaires de la personne, etc. Mais bon, le texte est, comme tous ces textes de loi, il est interprétable. Il est assez descriptif, je l'ai trouvé assez descriptif. Par contre, vous avez parfaitement raison sur le... sur les ruptures. Alors je sais pas, elles sont déjà plus anciennes, hein, dans le système de...
Oui, ah, ouais. Le débat à l'Assemblée, autour, ouais. Que doit-on utiliser en échange?
Exactement.
Si nous, c'est à cette période-là que
exactement. Oui, oui, oui. Mais c'est très intéressant que vous l'entendiez, vous, cette définition du travail social de 2017. Plutôt comme une possibilité de développement du pouvoir d'agir des bénéficiaires. Je suis content parce que je le trouvais plus enfermant que ça, le texte, et plus prescriptif que ça. Mais...
Sans entre-temps, ce qui est intéressant, c'est que la lecture peut être multiple, mais ça, on sait que c'est la vie. Par contre, effectivement, quand le Haut Conseil en travail social a réfléchi cette définition, et pour en avoir vu des échos assez directs, on est clairement, dans cette volonté, plutôt de travailler à partir de la demande de la personne, et dans une idée, encore une fois, de développer son propre pouvoir d'action sur sa vie.
C'est super, je peux que m'en réjouir parce que j'ai pas eu le temps dans la conférence de développer, et puis ça demandait aussi de regarder par des slides les pratiques discursives exactes, mais de développer les deux cas qui pouvaient être tout à fait intéressants, qui montraient vraiment le travail de normalisation, c'est-à-dire que c'est pas du développement du pouvoir d'agir de la personne qu'on fait quand on est à la PEC dans un programme d'accompagnement des jeunes cadres en recherche d'emploi, ou quand on est un conseiller en évolution professionnelle. On est au contraire dans l'identification d'une solution, par exemple, de conseiller en évolution professionnelle qui devient centrale maintenant dans... le parcours, je dirais, des chômeurs face à l'institution Pôle emploi. ce conseiller, il a, dans la manière dont il parle, on voit bien qu'il a une préconstruction de l'image de ses bénéficiaires comme des acteurs qui sont privés de compétences de positionnement, comme des acteurs qui sont fragiles, comme des acteurs qui sont démunis au niveau de la qualification, etc. Et que le conseiller en emploi a pour mission, finalement, de sauver dans une position assez héroïque lui faisant très très rapidement évoquer des possibilités de reconversion professionnelle et en accrochant, le terme est repris par le enfin est pris et vraiment utilisé par le et investi par le conseiller d'emploi, en accrochant une solution à l'expression à un moment d'une possibilité de reconversion. Pour vous donner un exemple, c'est un exemple très parlant. La conseillère emploi qui est dans une conférence devant des pairs explique comment il y a des moments où elle est complètement démunie, elle ne sait pas comment faire elle cite le cas d'un exemple, lorsque la personne lui dit bah, j'ai aimé à un moment faire des bouquets de fleurs, eh bien elle se saisit, elle s'accroche à cette idée pour fabriquer un projet de reconversion. Alors, elle travaille dans des temps très réduits, elle a une possibilité de plein de séances, et elle limite à 1h30, une seule fois, la rencontre avec le bénéficiaire, et elle est contente quand le bénéficiaire sort avec une idée de projet. Et elle fabrique elle dit qu'elle co-construit le projet avec... Le bénéficiaire. Et vous voyez, il y a du coup un forçage de la réalité, tout simplement de la trajectoire, de la réalité face à l'emploi de la personne, et il y a une instrumentalisation par les pratiques discursives d'une solution immédiate, d'une solution à court terme. Et elle ne s'étonne pas du coup que quelques années après, elle rencontre des gens qui ont un tout autre projet professionnel que celui qu'elle a défini avec eux. Donc voilà.
Moi, j'aimerais intervenir, au fond.
On s'entend.
On commence à se connaître, hein, que ça. Faudrait-il, au fond, penser ce colloque comme un processus de deuil de la fin des collectifs et des luttes sociales ? En entendant des propos fort intéressants, hein, puisque c'est moi qui vous ai invité, donc je ne peux pas me disqualifier en disant que ça ne va pas, non, je suis sincère, mais dans l'ère hypermoderne dans laquelle nous sommes, où les individus sont quand même pas mal atomisés, c'est-à-dire un bout réduit à ce que Ehrenberg, pour reprendre ce que vous disiez, Marie l'a dit, doit devenir un entrepreneur de lui-même, et faire la preuve de son existence par des qualités exceptionnelles, des compétences, j'entends, justifiables, au fond, disons qu'on est réduit à se contenter de devoir se soumettre à des politiques de psychologisation des rapports sociaux, où l'individu doit travailler sur lui-même, comme dirait Castel, à défaut de pouvoir travailler dans un emploi. Parce qu'il me semble, pour reprendre Foucault, hein, c'est une vieille lune, cette histoire de la technologie de soi. Il en a parlé dans Surveiller Punir, notamment. Et ça, c'est avant, j'entends, comment dire, le succès. Le succès, la réussite, la victoire du néolibéralisme qui forge aujourd'hui les politiques publiques, qu'elles soient assurantielles, assistentielles. Au fond, alors, on est réduit à faire de la com, à faire de la com entre nous, à faire de la communication non violente, de façon à réduire les conflits qui étaient auparavant collectifs, sociaux. On doit aujourd'hui travailler sur sa propre conflictualité, être bien avec les autres, être son propre dominateur. Puisque, au fond, ce matin, je n'ai ni entendu la place
des rapports de pouvoir ni de domination dans cette société-là. Alors je me dis, mais je dois un peu délirer, je dois un peu halluciner. Parce que modestement, j'essaye modestement d'accompagner des individus et des équipes dans le cadre d'un dispositif qu'on appelle supervision. Et j'ai, comme ça, j'ai une dissonance cognitive qui m'habite. Mais bon, j'irai voir mon thérapeute, une fois de plus, pour que je puisse effectivement faire un travail d'élaboration seul, sur le divan, avec moi-même.
J'exagère.
Mais il me semble que c'est important peut-être de revenir à des fondamentaux, de façon à se dire, mais au fond, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui nous reste encore ? Alors je suis peut-être un peu déprimé ou dépressif, mais il me semblait quand même important de revenir à cela, hein, sans, comment dire, être trop marxiste, voire même un peu freudien. Parce que ça me semble un peu fondamental en termes de solidarité. Alors, bien sûr, vous avez effectivement fait une analyse tout à fait remarquable des transformations des solidarités, mais qu'est-ce qui va nous advenir ? C'est-à-dire, au fond, quand Agnès Van de Velle-Rougal, avec laquelle vous avez travaillé, hein, Marc l'a dit, avec laquelle vous travaillez, qui parle de la novlangue managériale, on est, me semble-t-il, soumis à un commerce du langage qui vise à s'auto-convaincre, à convaincre autrui, de façon à pouvoir faire des alliances qui ne se font peut-être plus alors sur des valeurs, sur des normes collectives, qui participent effectivement à une vie sociale où l'individu, certes, a échappé au contrôle, il s'est émancipé de l'Église, de l'armée, de la famille, du mariage. Mais que reste, qu'est-ce qui reste, au fond ? Qu'est-ce qui reste ? Enfin, c'est une question sans réponse.
Il n'y aura pas de réponse.
Mais autant de frustration !
Alors, je ne sais pas ce qui reste. Non, il y a quand même de beaux restes. Quand j'en appelais à une forme de solidarité retrouvée, hein, sous forme d'un revenu de base qui est un exemple, j'entends bien que ça ne va pas couler comme ça, ça ne va pas venir du ciel, il faudra se battre pour ça.
Non, Dieu est mort. Hein.
On ne sait pas. Dieu seul le sait. Ah. Ceci dit, je pense en effet que l'atomisation, hein, c'est ce qui vous a plutôt amené à démarrer votre longue tirade.
À décoller même.
Décoller, oui. L'atomisation, elle est effectivement dans nos sociétés, hein, mais elle avait déjà beaucoup préoccupé les gens comme Durkheim, qu'on a raconté ce matin. Oui, parce que la solidarité, Elle existe que dans la mesure où on a l'impression de pouvoir partager des choses. La solidarité, c'est quelque chose qui n'est pas seulement un effort envers l'autre, c'est l'acceptation du retour de l'autre. La solidarité, c'est comme, dans le fond, c'est une forme de don, mais le don exprime la nécessité d'un contre-don que l'on accepte. La solidarité, c'est aussi accepter qu'on dépend de l'autre. Or, dans la logique de l'atomisation, on est loin de ça. Parce que chacun doit être autosuffisant. Hein. C'est un terme que j'ai utilisé tout à l'heure. Ce n'est pas seulement de l'autonomie. Or, on est en train de prêcher cette autosuffisance. Alors, par la destruction des institutions, vous avez fait une élaboration assez... Enfin, la liste funéraire, hein, la famille, l'Église, l'armée, ça, je ne suis pas sûr. Enfin, bref, on a une série... Oui, ce sont des institutions extrêmement important, même si le rôle a changé, la famille est toujours là, l'Église est toujours là, l'armée est toujours là, la violence aussi. Enfin, on est comme liés dans nos rapports sociaux avec les autres. Ceci dit, les rapports sociaux ont changé. Et on a aujourd'hui une difficulté folle à se penser autrement qu'autonome. Or, on ne peut pas être autonome dans une société comme la nôtre. L'homme n'existe qu'en société. Et donc, on doit pouvoir redécouvrir ce lien social. C'est pour ça que à la fois, j'aspire à cette solidarité de fond, tout en rendant les choses en remettant les choses à leur juste place. Une des principales objections que j'avais à ce revenu de base, c'est précisément le risque par rapport au lien social. Dès lors que l'État assure tout, hein, il assure votre rente, il assure vos allocations familiales, etc. Dès lors que l'État se fait le porteur de cet effort collectif, c'est vrai que si ceci ne s'accompagne pas de tout un travail sur l'importance de la solidarité, on est perdu. Et là, je vous rejoins, enfin, on est loin. Donc, pour moi, le revenu de base, pour reprendre cette idée, encore une fois, ce n'est pas la seule, mais qu'on puisse développer dans cette direction-là, un tel revenu ne peut se mettre en place que dans la mesure où on montre l'importance de ce qu'est cet effort. Dès lors qu'on oublie que c'est un collectif, dès lors que ma voisine d'en dessus bénéficie d'une allocation de base, j'ai plus besoin de me préoccuper de ses commissions. Elle se débrouille. Donc si on est dans une logique où la solidarité, c'est juste un collectif qui nous permet de vivre de façon autarcique, je pense qu'on est extrêmement mal parti. Donc le travailleur social, à mon avis, doit précisément à chaque fois accompagner toutes ces mesures. C'est lui qui amène le sens. C'est lui qui doit travailler le sens. Faire que les gens puissent reprendre possession de leur avenir, de leur futur, c'est ça. C'est leur redonner cette force d'agir, cette force que chacun doit avoir, mais dont on est en partie expurgé dès lors qu'on dit, vous êtes à l'aide sociale, donc vous êtes perdu, vous ne savez plus quoi faire, vous faites uniquement ce que je vous dis de faire. C'est un des dilemmes que je mettais en place. Il est très difficile de s'en sortir de ce dilemme-là, parce qu'il nécessite beaucoup, beaucoup de tact. C'est-à-dire à la fois respecter l'autre, respecter sa démarche, et en même temps contenir toutes les contraintes institutionnelles. Du rendement, il faut qu'on soit efficace. Si on engage des travailleurs sociaux, c'est pour qu'il n'y ait plus de problèmes en ville, qu'il n'y ait plus de jeunes qui taguent, qu'il n'y ait plus de vieux qui vieillissent. Ouais.
En conclusion, Marc Ladier.
Ah, ça va être très difficile de faire une conclusion.
Non, enfin, une réaction qui conclut plutôt.
Moi, je crois qu'il faut du coup inciter les professionnels à redéfinir les conditions d'un lien social à l'intérieur des professionnalités et dans leur propre pratique à intégrer, à refuser tout ce qu'on a dit sur la technologie de soi, l'inculcation d'une technologie de soi, et plutôt, comme ça a été évoqué par différents intervenants dans la salle, développer des manières de réfléchir sur, de faire de la sociologie dans la relation d'accompagnement, c'est-à-dire de ne pas isoler une représentation d'un salarié à la recherche d'un emploi avec des compétences intrinsèques et je ne sais pas quelles caractéristiques objectives qu'on essaye de renforcer ou d'objectiver un petit peu plus pour être un vendeur de son capital, mais ou un entrepreneur de soi, si on prend Ehrenberg, Foucault, mais plutôt un acteur de la société, un acteur inscrit dans des problématiques sociales. Et moi, mon idée d'offre de sens, elle est vraiment là. C'est-à-dire que si consultant ou le conseiller emploi est aussi un peu psychosociologue et surtout sociologue, les deux, il va être capable d'entendre dans le destin individuel de la personne une problématique sociale et de démystifier cette projection sur l'individu pour en faire le reflet d'une situation sociale et un instrument d'action, de militantisme. Le militantisme, pour moi, il doit être dans la profession, d'une part, dans les dimensions, dans les dimensions institutionnelles, syndicales de la profession, et à l'intérieur du travail d'accompagnement, dans une capacité du travailleur social à démystifier, disons, le problème individuel pour en faire le reflet d'un problème sociétal. L'offre de sens, c'est précisément ça, c'est montrer, c'est amener à faire comprendre que là où ça bute individuellement, c'est pas une culpabilité individuelle, c'est un problème sociétal qui est incarné à un moment dans une situation individuelle.
Merci Marc Glazy, merci René Knussel, merci à la salle. Avant de se quitter, une consigne de domestication qui vise à une gestion efficace, efficiente des ateliers. Les ateliers que vous avez choisis, vous ne bougez pas. C'est un ordre.
Il y aura des contrôles.
Et vous allez travailler sur votre propre responsabilité s'il y a des conséquences. Alors, les autres mises à part, il y a des espaces qui sont attribués, qui sont relativement confinés, assez grands. Mais vu le succès de ce colloque-là, on va être un peu coince-coince, sauf ici. Donc, pour l'atelier 1, programme de formation des jeunes adultes en difficulté forgée à une transition socio-professionnelle sans fin, Donatella, l'excellente Donatella Morigier-Pahu, vous donne rendez-vous à 14h ici. Atelier numéro 2, unité commune, office régional de placement, centre social régional, un mariage. Deux raisons, c'est à la salle Octogone, à l'étage, avec Stéphanie Bella, Maria José Clapasson, Florent Grain, et je serai l'animateur, donc ça va bouger. Atelier numéro 3, l'usage des pratiques artistiques, des outils au service de l'économie marchande, on n'en doute plus, c'est à la salle Rambert, aussi à l'étage. Je vous remercie de votre attention, bon appétit et à tout à l'heure.